Bien, nous allons reprendre. Lors des deux dernières leçons, j'ai commencé à aborder la question de la construction géométrique de l'image du point de vue des choix qui sont opérés de rendre visible telle ou telle caractéristique de ce qui est perçu dans le champ visuel humain, en faisant l'hypothèse que ces choix figuratifs sont aussi des choix ontologiques, puisque ils objectivent certaines propriétés du réel et en même temps qu'ils en négligent d'autres, et ils rendent aussi manifeste la prééminence de certains points de vue sur d'autres. Ils attirent ainsi l'attention sur des formes particulières d'être au monde. En me servant des travaux de Margaret Hagen sur la psychologie de la perception, j'avais donc commencé à examiner l'ensemble des transformations géométriques disponibles pour la représentation iconique sur, évidemment, une surface plane. Et j'ai en effet suivi la typologie que Margaret Hagen propose et qui est fondée sur la combinaison de trois facteurs. Le premier facteur, c'est le point de vue, c'est-à-dire si l'image est construite à partir d'un point de vue unique, comme dans la perspective linéaire, par exemple, ou sur un point de vue multiple, comme dans la représentation des doublés de la côte nord-ouest, et si la distance du point de vue est proche, modérée ou située à l'infini optique. Deuxième type de critère, c'est le type de transformation géométrique au moyen duquel les invariants d'une réalité en trois dimensions passent ou ne passe pas dans une image en deux dimensions. Je rappelle qu'il s'agit de quatre types de transformations, les transformations métriques, dans lesquelles la dimension, la forme, la valeur des angles et le parallélisme sont conservés, les transformations par similitude, dans lesquelles on perd les invariants de dimension, les transformations affines, dans lesquelles seul le parallélisme est maintenu, et les transformations projectives, dans lesquelles à peu près tous les invariants sont transformés. Et cette dernière étant évidemment la base de la perspective linéaire moderne. J'avais examiné ces deux points en prenant comme exemple la peinture européenne à partir de la Renaissance, l'art japonais classique, dit Yamato-e, les images de l'Égypte ancienne et l'art de la côte nord-ouest. Et il reste à traiter un troisième point, un troisième critère, à savoir les techniques de composition, c'est-à-dire les techniques qui vont privilégier soit, au fond, le simple remplissage de l'espace avec des figures sans épaisseur, ou au contraire, qui vont privilégier la restitution de l'illusion du volume des solides. En effet, toute représentation en deux dimensions n'est pas seulement une conversion géométrique d'un espace, d'un volume, pardon, en trois, et d'un espace aussi en trois dimensions, en ce sens que d'une part, l'image est elle-même dépeinte sur une surface relativement plane en général et assez souvent circonscrite par un bord, et qu'elle doit donc tenir compte de ses contraintes physiques, et d'autre part que cette image est l'expression d'un intérêt ou au contraire d'une indifférence pour le fait de donner une figuration vraisemblable au volume des solides dépeints. Certaines techniques figuratives s'efforcent de restituer l'impression de tridimensionnalité grâce à des procédés éprouvés, comme l'ombre, par exemple, qui permet de donner de la profondeur à l'arrondi d'un visage, ou la perspective atmosphérique qui contribue à accentuer la profondeur d'un paysage en unifiant les plans les plus lointains dans les tons du ciel. D'autres styles, en revanche, paraissent largement indifférents à ces préoccupations et traite le plan de l'image comme un espace à remplir de formes qui sont en grande partie déconnectées les unes des autres. Alors on va examiner ces deux tendances tour à tour, en commençant par la deuxième, c'est-à-dire celle qui caractérise les modes de figuration peu soucieux de reproduire des volumes. Et on va revenir pour commencer aux images de l'Égypte ancienne. Je rappelle que du point de vue de la géométrie de la représentation, on y dépeint les artefacts et la plupart des animaux à partir d'un point de vue unique et généralement dans leur plan latéral ou sagittal, tandis que les oiseaux et les humains sont figurés à partir de points de vue multiples. L'emploi de la figuration métrique, par ailleurs, c'est-à-dire le fait que les images sont parallèles au plan principal de l'objet dépeint, aboutit à ce que les figures, notamment les figures humaines, apparaissent comme une sorte de mince tranche découpée dans un plan vertical. Et une conséquence de cela, c'est que la figuration de certaines situations exige des techniques de composition tout à fait particulières, dont le résultat peut paraître contre-intuitif. Alors on va regarder un premier exemple, qui est cette stèle de Montaut-Weser. Vous voyez donc ici un guéridon et voilà. Et au-dessus de ce guéridon sont placés des objets. Donc le guéridon, il est dépeint comme il se doit pour un artefact en vue latérale, et on distingue au-dessus, eh bien, un canard. Ça, c'est un pin. Une tige de papyrus, là, une gerbe de céréales, et ici, ce qui semble être une tête de veau. Enfin, ça pourrait être une tête de bœuf, mais étant donné la taille, c'est peut-être plutôt une tête de veau. Or, ces objets sont posés sur le guéridon et ils sont représentés non pas comme le guéridon de profil, mais vu d'oiseau, c'est-à-dire selon un point de vue qui est différent de celui adopté pour dépeindre le support sur lequel il repose. À une exception, celle de la tête de veau, donc dans le coin ici en bas à droite, qui est représentée de profil. Comme on l'a vu auparavant, c'est l'exactitude qui prime dans ce mode figuratif, c'est-à-dire l'exigence que les objets dépeints soient reconnaissables sans équivoque, et l'on peut penser qu'une tête de veau est en effet plus aisément reconnaissable de profil que vue d'oiseau. En outre, ces objets ne sont pas amoncelés comme ils devraient notamment l'être dans la position où ils se trouvent, mais ils sont rangés soigneusement les uns à côté des autres, sans qu'il y ait véritablement d'espace entre eux, dans un échelonnement vertical, de façon à ce que leurs différentes formes s'emboîtent les unes dans les autres et que leur symétrie générale réponde en écho à la symétrie inversée des bras de Montaut-Weser, vous voyez l'orientation ici, et en même temps à la direction générale du bras de ce personnage dans le coin ici. On a donc ici, dans ce secteur de l'image, non seulement l'application d'une transformation métrique sur un même ensemble à partir de deux points de vue différents, on peut même en dire trois si on se rappelle que dans la figuration des figures humaines, on a un point de vue frontal qui est celui des yeux, un autre point de vue frontal qui est celui du haut du buste et un point de vue sagittal ou latéral pour le reste du corps. et ici un autre, donc une autre combinaison entre deux points de vue différents. Mais on a aussi un usage très ingénieux des lois de symétrie et de destin commun, pour reprendre la terminologie de la psychologie de la Gestalt, de façon à disposer ces objets dans un ensemble qui se répondent à partir d'une économie interne qui n'est pas l'économie de la description véritablement des objets, mais qui est l'économie interne de la disposition à l'intérieur de cette image. Et sans que l'emploi, par ailleurs, de ces mécanismes visuels ne s'étende au reste de l'image, et notamment à ces deux personnages qui sont ici dans le coin à droite. Donc la disposition des motifs sur une surface plane afin qu'ils soient le plus aisément reconnaissables de façon individuelle prime ici à l'évidence sur la volonté de reproduire un espace en trois dimensions vraisemblable. C'est un même choix qui a présidé à l'organisation des figures dans le cercueil peint égyptien encore, que j'ai présenté dans la dernière leçon. Là aussi, le souci de composition en deux dimensions prime sur le souhait de représenter un espace en trois dimensions. On peut considérer en effet que la paroi de bois est divisée en une série de petits cadres, ils sont assez visibles, qui permettent de structurer l'apparence bidimensionnelle des éléments en établissant entre eux une correspondance des formes. Ainsi en est-il, par exemple, du rectangle qui dessine cette scène et qui est séparé par des bandeaux. Il y en a un ici, il y en a un en bas, puis il y en a un sur le côté. Rectangle donc délimité sur trois côtés. Et de ce fait, la disposition oblique de la canne donne un dynamisme notable à cette mini-scène, découpée dans l'image générale, en ce qu'elle contraste nettement avec les axes qui sont essentiellement verticaux ou horizontaux du reste de l'image et d'ailleurs de la composition. On a au milieu de l'image cette canne oblique qui introduit un dynamisme tout à fait notable. Il en va de même avec le traitement des vases, des deux grands vases de part et d'autre de l'image, ici et ici. Le vase de gauche est lui-même encadré dans un espace rectangulaire, comme ça, ici. Ce qui souligne son aspect symétrique, puisque l'espace négatif, c'est-à-dire la portion de l'espace qui n'est pas occupée par le vase, qu'on a ici, et puis en haut, donc puisque l'espace négatif est lui-même de ce fait tout à fait symétrique. Quant au vase de droite, celui-ci, sa symétrie parfaite est au contraire soulignée par le fait qu'il est placé entre deux autres pièces dont les formes, ici c'est probablement un brasier ou un brasero, et ici un vase, dont les formes sont à la fois très différentes de la sienne et beaucoup plus complexes. Donc là encore, les préoccupations formelles d'articulation de motifs sur une surface plane priment sur le souci de reproduire des scènes en trois dimensions. Revenons maintenant encore à l'iconographie de la côte nord-ouest, et on retrouve un souci tout à fait identique, à tout le moins pour les images qui correspondent, dans la terminologie de Bill Holm, à ce qu'il appelle les styles expansifs et distributifs. Donc je rappelle, j'en ai parlé un peu dans une leçon précédente, le style expansif correspond à la représentation dédoublée, généralement par déploiement des flancs à partir d'un axe central, tandis que le style distributif combine, dans un cadre bien défini, par exemple dans la structure approximativement trapézoïdale d'une couverture chilcate, plusieurs plans de l'animal qui sont distribués dans cet espace de telle façon qu'il est le plus souvent impossible de reconnaître l'animal auquel on a affaire. On en a ici, donc ici on a une figuration expansive. Hein. Là on reconnaît bien l'axe central et puis la distribution, le dépliement à partir de cet axe central des deux flancs. En revanche, dans un chilcate comme celui-là, avec ce style distributif, il est extrêmement difficile, même si on connaît quelques-unes des conventions qui président à la construction de ces images, il est extrêmement difficile de repérer de quel animal il s'agit. Dans ces deux cas, tout l'espace cadré est rempli par la représentation d'un seul animal, envisagé de divers points de vue, sans qu'aucun environnement, sans qu'aucun contexte ne soit figuré, ce qui rend superflu le souci de représenter évidemment divers volumes les uns par rapport aux autres. Enfin, dans la terminologie toujours de Billholm, le style qu'il appelle configuratif, et qui consiste à dépeindre en général aussi un seul animal, mais en le détachant nettement du cadre à l'intérieur duquel il s'inscrit. Je vais reprendre l'image que vous avez montrée lors d'une dernière leçon, qui est le loup. Là, il n'y a pas de problème, on distingue assez bien hein, les différents éléments qui sont un peu déformés parce qu'il est sur la bordure du chapeau, mais qui sont néanmoins parfaitement identifiables. Ces images de style configuratif, pour reprendre la terminologie de Holm, on peut sans doute les considérer de fait comme des transpositions en deux dimensions des sculptures en ronde bosse dont elles reprennent les caractéristiques principales. Je vais en prendre un exemple classique d'un aigle Bellacoula, dans lequel, là aussi, au fond, le souci de réalisme est tout à fait manifeste. C'est donc dans les styles expansifs et distributifs que sont visibles, au premier chef, les effets d'un privilège accordé à la figuration en deux dimensions. Il s'agit, d'une part, d'exploiter les caractéristiques ornementales qui sont propres aux motifs bidimensionnels, généralement en utilisant certains des principes de construction visuelle que la psychologie de la Gestalt a bien mis en évidence, notamment le principe de proximité, le principe de symétrie, le principe de destin commun. On en trouve de bons exemples dans le chilcate. Et d'autre part, avec le souci de remplir la totalité de l'espace figuratif indépendamment de la forme originelle de l'objet dépeint. Ce qui compte, c'est le support et le cadre à l'intérieur duquel le support pourvoit pour la représentation, beaucoup plus que la forme originelle de l'objet dépeint. Et ces deux préoccupations, donc, l'emportent de loin sur la volonté de reproduire de façon vraisemblable le volume de l'animal représenté et sa situation dans l'environnement. On prend un autre exemple. C'est toujours en style expansif, une libellule gravée sur une plaque d'argilite. Et j'ai mis à côté l'une des nombreuses espèces de donates que l'on trouve dans la côte, dans cette région du littoral de la Colombie-Britannique. Sans être absolument évidemment assuré que ce soit la même espèce. Donc, dans cette composition, on voit que l'image est distribuée de telle façon qu'il est difficile de reconnaître la libellule. Elle est répartie en un très grand nombre de plans, autour d'un axe central. L'axe central, il est facile à repérer. Au fond, l'image sature tout l'espace disponible. Alors, peut-être qu'un travail minutieux permettrait d'identifier, avec des signes de ce type-là, l'espèce des... Je crois qu'il y en a 64 dans cette région de Colombie-Britannique. L'espèce représentée ici, mais rien n'est moins sûr. Donc, au fond, les préoccupations décoratives paraissent primer ici sur le désir d'iconicité, à tel point que ces préoccupations décoratives pourraient faire ranger ce genre d'image dans la catégorie de l'art ornemental, à l'instar, par exemple, des feuilles d'acanthe ou des palmettes dans la tradition de l'art de l'Antiquité, qui a été repris évidemment par la suite. Bref, et sans trop anticiper sur ce que je dirai plus tard, il paraît manifeste une tendance générale de la figuration sur la côte nord-ouest consiste à réserver les effets de décoration bidimensionnelle aux images héraldiques, à l'exception, et ça je l'avais déjà souligné dans la leçon sur l'art de la côte nord-ouest, à l'exception des maths totémiques, tandis que le style configuratif, qui s'attache plutôt à restituer des animaux en deux dimensions, comme s'ils étaient vus en trois dimensions, est de préférence employé dans les images de type animique. Passons maintenant à d'autres images, toujours en style bidimensionnel, qui sont les images médiévales. Dans son livre Space in Medieval Painting, qui est publié en 1940, Myriam Bunim développe l'idée que les enluminures romanes sont principalement régies par un principe bidimensionnel et qu'elles témoignent d'une parfaite indifférence à la restitution d'un environnement réel avec sa profondeur et avec son volume. Je la cite, « L'arrière-plan des images romanes est segmenté, mais les divisions ne renvoient ni par la forme ni par la couleur à un environnement naturaliste. De ce fait, ce type d'arrière-plan n'a pas plus de caractère représentationnel que l'usage, qui est par ailleurs très courant, d'une couleur unique comme fond. » C'est assez souvent, vous le savez, du bleu, du vert ou du doré. Un arrière-plan non iconique, composé de bandes et de panneaux monochromes, et, souligne-t-elle, congruent avec l'environnement des monastères d'où provenaient les enlumineurs, il témoigne d'une certaine indifférence, dit-elle, aux activités mondaines et aux travaux manuels, comme c'est le cas dans la description de ces travaux d'échange. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait le cas, puisque c'est quand même des gens qui travaillaient aussi, ora et labora, une partie du temps. Donc là, ce sont des travaux d'échange, en effet, c'est les moissons. L'action est assez dépeinte de façon assez réaliste. Hein, on voit l'usage de la faucille, des petits greniers, du râteau à fenaison, etc., de la bêche. Cette action dépeinte, elle n'est pas confinée à l'intérieur d'un cadre qui viendrait délimiter la scène de son déroulement et lui donner de la profondeur, comme ce sera le cas pas tellement longtemps plus tard, moins de deux siècles plus tard, dans la peinture occidentale, puisque les personnages sont, la plupart du temps, superposés aux bordures. Donc le fond, ici, n'a aucune espèce de fonction de restitution d'un environnement. Il s'agit seulement donc d'un fond bicolore, dont les couleurs alternent, bleu, vert, bleu, de façon à produire un contraste entre les images, et c'est un effet visuel qui est tout à fait typique d'un souci bidimensionnel, pourrait-on dire. Parfois, la bordure est même utilisée de façon presque ludique dans un jeu manifestement délibéré entre la figure et le fond. C'est le cas ici, dans cette adoration des rois mages, où l'un des rois tend son offrande en la faisant dépasser du cadre. Alors évidemment, des images de ce genre, elles ne visent pas à figurer des volumes et une réelle profondeur de champ. Cependant, elles jouent sur un effet de tridimensionnalité par l'usage très simple de ce mouvement de dépassement du cadre par le motif. C'est un artifice qui introduit une rupture de symétrie. Il attire l'attention sur l'élément discordant et il donne ainsi un puissant dynamisme à l'image dont tout laisse à penser qu'il est effectivement tout à fait recherché. C'est donc au fond un tour de force que de parvenir, dans une représentation de ce type, à impliquer en quelque sorte le spectateur dans l'action des peintes de façon presque aussi efficace que permettra ensuite la combinaison de la géométrie projective et du trompe-l'œil dans la peinture des siècles ultérieurs, et notamment, je pense à une peinture très célèbre, certains d'entre vous la connaissent sans doute, qui, presque sept siècles plus tard, joue de façon tout à fait délibérée sur le franchissement du cadre. C'est par un peintre espagnol qui n'est pas très connu, sauf pour cette toile. Et au fond, c'est exactement le même principe. Sauf que là, évidemment, c'est la géométrie projective qui domine et un point de vue unique. Alors, il est tout à fait paradoxal qu'une trentaine d'années à peine après cette peinture, ce trompe-l'œil de Pere Borrell del Caso, un mouvement artistique dans lequel un autre espagnol, je devrais dire un catalan, a joué un rôle de premier plan, a marqué une rupture complète avec les normes de la transformation projective qui avait régi la peinture et qui avait régné sans partage donc pendant 4 siècles et demi dans la géométrie représentationnelle de la peinture européenne. Et ce mouvement, bien sûr, c'est le cubisme. Picasso et Braque ont désintégré les illusions de la perspective linéaire et ils ont fait disparaître le point de vue impérial, pourrait-on dire, d'un sujet unique ordonnateur du monde. Ils les ont remplacés par des corps et par des objets morcelés, disloqués, envisagés de divers points de vue et réduits à des plans géométriques simples et enchevêtrés. Le plus connu, c'est bien évidemment Les Demoiselles d'Avignon, qui est un peu le manifeste du cubisme. Alors, l'adoption de différents points de vue sur un même objet était donc une rupture profonde par rapport à ces siècles de construction projective par rapport à un point de vue unique, était moins un but activement recherché afin de déconstruire la perspective artificielle, qu'un effet induit du désir de restituer sur la toile l'expérience d'une succession rapide de perceptions de cet objet. Et cet effet quasiment cinématographique passait par la décomposition explicite des objets dépeints et par leur fragmentation, comme autant de vues portées sur ces objets et juxtaposées dans l'espace de l'image, ce qui excluait évidemment de les figurer comme s'ils avaient conservé une unité reconnaissable. Et le paradoxe de la géométrisation des formes que le cubisme opère, c'est donc qu'elle contribue simultanément à un retour à un traitement bidimensionnel des images composé d'un assemblage de plans de plus en plus disparates à mesure que le mouvement, que le cubisme se radicalise, comme par exemple dans cette nature morte au violon de Picasso. Dans cette toile, enfin c'est un collage d'ailleurs, les différentes vues du violon ne se recombinent pas pour produire l'impression d'une totalité cohérente, à la manière, par exemple, de ce que les images d'animaux figurées dans le style expansif de la côte nord-ouest parviennent à engendrer, l'intention, elle est bien de multiplier des plans bidimensionnels sans les intégrer dans une scène construite pour donner l'illusion d'une profondeur de champ. Et en ce sens, le cubisme pousse jusqu'à ses ultimes conséquences visuelles la technique du passage inaugurée par Cézanne et qui consiste à fondre des plans en les superposant, comme dans ce paysage, où on voit qu'en dépit du contraste des couleurs, la végétation basse, en particulier ici et ici, paraît comme fusionnée avec le sol. De même, les limites des plans perpendiculaires, je pense à ceux-là en particulier, ceux-là, se confondent les uns avec les autres, de sorte que l'intégration des différentes surfaces est obtenue non pas en construisant l'illusion d'une perspective centrale, mais en accentuant au contraire la planéité de la surface sur laquelle le paysage est dépeint. C'est une leçon que Picasso a parfaitement retenue, par exemple dans son portrait de Kahnweiler. Alors, lorsqu'on regarde ce portrait, comme nous le faisons avec certaines illusions de la Gestalt, nous reconstruisons, en regardant le portrait, par le regard, la situation respective de la myriade des petits plans géométriques qui composent la figure, mais sans parvenir à complètement stabiliser l'image, puisque les plans ont tendance à basculer leur position les uns par rapport aux autres, apparaissant tantôt au premier plan, tantôt au second. Et il en résulte une surface picturale qui est à la fois parfaitement plane, composée d'éléments géométriques, et en même temps complètement dynamique, par cet effet de basculement constant des plans entre l'avant-plan et l'arrière-plan. Cela dit, cette technique de composition, elle peut être poussée vers un rendu beaucoup plus réaliste des volumes, comme dans un autre portrait cubiste de Picasso, qui est le portrait d'Ambroise Vollard. Là aussi, il s'agit d'un usage bidimensionnel de petits plans géométriques, interdépendants, mais la différence avec le précédent, c'est que c'est pour ça que j'ai mis les photos. Le personnage est beaucoup plus reconnaissable et il est beaucoup plus reconnaissable pour des raisons qui n'ont pas tellement à voir avec la disposition des petites surfaces géométriques, mais avec l'usage des couleurs. Donc là aussi, il s'agit d'un usage dimensionnel de petits plans géométriques, hein, interdépendants, mais qui confère au volume et notamment au visage, une profondeur et une sorte de vraisemblance plastique tout à fait saisissante, du fait notamment d'un usage très ingénieux de la juxtaposition des aplats de couleurs, en particulier sur le haut du crâne. Autrement dit, la même technique peut être utilisée tout aussi bien pour mettre l'accent sur la fragmentation et la plasticité dynamique, comme dans le portrait de Kahnweiler, ou sur la recomposition des volumes, comme dans le portrait de Vollard, tout en maintenant le principe général de la diffraction kaléidoscopique des points de vue. Parmi les multiples raisons qui font de ce portrait de Vollard un chef-d'œuvre, il y a ainsi que Picasso est parvenu à infuser dans une image à point de vue multiple une vigueur iconique dont il est aisé de mesurer le réalisme au regard de ce que l'on connaît de l'original, pour ça que j'ai aussi mis la photo, un exploit qui tranche avec la difficulté rencontrée par d'autres traditions figuratives sur la côte nord-ouest ou en Égypte ancienne, par exemple, pour parvenir à ce résultat. Si tant est qu'elle ait recherché ce résultat, ce qui semble être le cas au moins pour l'Égypte ancienne. Ce n'est pas facile, en effet, lorsqu'on adopte des points de vue multiples, comme c'est le cas ici, d'arriver à donner de la vraisemblance réaliste aux images. Et Picasso y est ici parfaitement parvenu. Passons maintenant au style à dominante en trois dimensions, c'est-à-dire aux techniques de composition qui mettent au contraire l'accent sur la restitution en trois dimensions des choses dépeintes. Alors, évidemment, l'exemple qui vient immédiatement à l'esprit, c'est l'art européen de la Renaissance, qui est riche d'enseignements de ce point de vue, car on y trouve à la fois des structures rémanentes renvoyant au mode de composition en usage dans les enluminures précédemment examinées et un traitement absolument nouveau de la profondeur et du volume de la figure et des objets. Dans ce tableau de Sainte-Lucie, par exemple, l'arrière-plan, il est traité comme dans une enluminure ou comme dans une icône. C'est un simple fond uni, destiné à faire ressortir, par contraste, la figure du premier plan. Et il en va de même des puissants effets de symétrie auxquels le peintre a recours. D'abord, l'organisation autour d'un axe vertical central, l'orientation identique des deux mains sur un axe horizontal, comme de la rupture de symétrie qui est induite par l'inclinaison de la palme et par l'inclinaison symétrique entre les deux paires d'yeux. Je vous rappelle que Sainte-Lucie s'était arraché les yeux. Et donc, elle est souvent représentée avec ses yeux. En revanche, le modelé du visage et des mains, les plis de la coiffe et du costume donne une impression de volume et de densité telle que l'on n'en a guère d'exemple dans les enluminures des siècles qui précèdent, même parmi celles qui témoignent déjà d'une très grande maîtrise, comme celle-ci peinte presque exactement un siècle plus tôt, que j'avais montré il y a plusieurs années dans une leçon. On voit qu'il y a un effort, effectivement, définition des plis de la robe, du modelé des visages, etc., mais qui est évidemment beaucoup moins abouti, avec le même usage de la symétrie, ici, entre le doigt et l'inclinaison du mouvement de Jean de Vaudetard qui présente la Bible historiale, et un fond uni, tout à fait caractéristique, des images de cette époque. Une autre image de la Renaissance, qui est un portrait très célèbre que Léonard de Vinci a exécuté de Ginevra de Bency, rend ce contraste encore plus évident. Alors là, évidemment, à la différence du portrait de Sainte-Lucie, de l'image de Sainte-Lucie, l'arrière-plan est traité en paysage, ce qui donne évidemment de la profondeur à l'image par la multiplication et la hiérarchisation des plans. Mais c'est surtout le traitement de la jeune femme qui fait de cette peinture une figuration tridimensionnelle. C'est l'ombre délicate qui souligne le relief du visage, c'est la lumière qui accroche les boucles de cheveux, c'est la précision et la subtilité avec lesquels l'arrondi du cou est rendu. Tous ces détails contribuent à donner un réalisme palpable à cette charmante figure. Mais c'est évidemment dans la figuration des paysages que devient le plus manifeste la volonté d'émuler la tridimensionnalité sur une surface plane. On a un bon exemple dans ce tableau de Bruegel. Là, ce n'est pas seulement l'emploi de la perspective, donc de la projection géométrique, qui donne amplitude et profondeur à l'image, c'est aussi la diversité des plans successifs et des contrastes marqués qui les distinguent, entre ce plan-là, et puis tous les plans suivants. C'est aussi 1000 petits détails qui font de cette scène un lieu dans lequel on pourrait se glisser discrètement, plus qu'un ensemble de motifs habilement disposés les uns par rapport aux autres dans un espace circonscrit, avec notamment cette idée très, très remarquable du couloir qui donne une profondeur au centre de la toile. Donc la fenêtre d'Alberti, ce n'est pas simplement un principe de composition géométrique ordonné à partir d'un sujet, c'est aussi, en quelque sorte, une injonction de donner l'illusion de la vie à ce que le regard saisit, comme par effraction, de l'autre côté de la surface du tableau. Il n'est pas indu non plus de considérer les manifestations les plus virtuoses de l'art rupestre, du paléolithique supérieur donc, comme animées par une ambition de restituer un volume au moyen d'une image en deux dimensions. Certes, et comme je l'ai répété à plusieurs reprises ici, l'interprétation de la signification des images des grottes ornées, c'est une entreprise hautement spéculative dont on voit mal par quelles données elle pourrait être corroborée. En revanche, il n'est pas interdit, comme tous les grands préhistoriens l'ont fait, d'examiner les procédés employés dans la composition. Et ceci, en fait, vise le plus souvent à représenter, avec une évidente intention mimétique, des objets en trois dimensions, dépeints indépendamment les uns des autres, même lorsqu'ils sont regroupés, voire superposés, sur une même surface. Et bien que des scènes de groupe existent, les images les plus communes montrent des animaux qui, à l'évidence, ont été dépeints sans véritable rapport les uns avec les autres. J'en ai quelques-uns classiques, je les ai empruntés à la grotte Chauvet parce qu'ils sont particulièrement spectaculaires. Ici, c'est le détail, avec ce mouvement, ce dynamisme induit par la répétition du profil. Et puis cet ours ici, avec l'usage d'une vue en plongée, en légère plongée, qui permet d'avoir une vue des deux oreilles, et en même temps l'utilisation de ce ressaut de la paroi pour souligner l'épaule. Alors, il y a plusieurs raisons qui permettent de montrer, qui permettent de penser qu'il y a véritablement une intention tridimensionnelle dans ces images. D'abord, les animaux sont dépeints sur des parois sans que l'on ait cherché à les circonscrire dans des cadres qui leur donneraient une autonomie avec des règles d'assemblage à l'intérieur d'un ensemble bien circonscrit. Et cette liberté dans la disposition des figures, les unes par rapport aux autres, délie d'une certaine façon de la tentation de faire prévaloir l'organisation des images et la correspondance de leur schème formel sur la recherche de l'apparence tridimensionnelle de ce qu'elle figure. Autre raison, c'est que les producteurs de ces images ont utilisé, on le sait, les inégalités, comme ici, hein, de la paroi, précisément pour donner du volume et du dynamisme à leur représentation, selon une technique d'accentuation plastique des détails anatomiques qui s'apparente presque au bas-relief. La pratique est si systématique dans toutes les grandes ornées de France et d'Espagne qu'il est impossible qu'elle n'ait pas été tout à fait délibérée. Enfin, parce qu'il est manifeste que tout comme dans la peinture occidentale à partir de la Renaissance, c'est un moment fugace que ces images cherchent à saisir. C'est un félin ramassé qui s'apprête à bondir, c'est un bison en train de mugir, je pense ici au fameux relevé par l'abbé Breuil des peintures d'Altamira, c'est un rhinocéros prêt à charger, comme celui qu'on a vu tout à l'heure. Bref, c'est la capture d'un instant dans la vie du monde qui prime sur l'organisation des images dans un espace bidimensionnel où elles se répondent les unes aux autres. Alors un dernier point reste à examiner brièvement avant de passer à une synthèse de la typologie des formes géométriques de la représentation. Ce point, c'est celui de l'orientation du plan des objets à dépeindre par rapport au plan de l'image. J'ai parlé jusqu'ici, de façon un peu floue, de plan dominant, mais sans spécifier la façon dont ce plan dominant pouvait être défini. Le plan dominant, c'est en principe celui qui donne l'information la plus complète sur la forme caractéristique d'un solide en trois dimensions, de façon à ce que l'on puisse l'identifier dans une représentation en deux dimensions. Pour une figure humaine, par exemple, c'est soit une section frontale, c'est-à-dire le plan qui sépare la partie avant de la partie arrière, disons une vue de face en termes courants, soit une section sagittale, c'est-à-dire le plan qui sépare le côté droit du côté gauche, donc une vue de profil en termes courants, et à peu près jamais une section transversale, c'est-à-dire le plan qui sépare le haut du bas. C'est ce que Bertillon avait bien compris lorsqu'il a inventé la photo d'identité judiciaire en utilisant un plan, une section frontale ou un plan frontal et un plan sagittal. Pour un oiseau, en revanche, ce sera assez souvent la forme la plus qui permet la reconnaissance la plus aisée, ce sera assez souvent un plan sagittal, parce que c'est généralement vu de profil qu'un oiseau révèle sa forme la plus caractéristique. Vous pouvez regarder, par exemple, dans les livres d'ornithologie, c'est assez souvent en plan sagittal que les oiseaux sont présentés, et ce n'est pas uniquement dans les livres d'ornithologie. Dans ce paravent japonais, vous constaterez que la plupart des oiseaux sont représentés ici en vue sagittale ou semi-sagittale pour les oiseaux qui sont en vol. Pour les objets qui sont, en revanche, relativement plats et allongés, la meilleure restitution du volume sera plus généralement une section transversale. Et c'est sous cet angle que leur forme est en général la plus aisée à reconnaître. On peut en voir ici un exemple avec une peinture australienne de la Terre d'Arnhem. L'échidné est représenté en plan presque sagittal. S'il était complètement sagittal, on ne devrait pas voir les pattes derrière, tandis que la tortue est représentée en plan transversal. Mais ce sont là, bien sûr, des tendances. D'abord parce qu'il n'y a pas d'accord sur ce que pourrait être la représentation conceptuelle de la forme canonique d'un objet, puisque les positions oscillent entre, disons, un modèle prototypique statique, c'est-à-dire un gabarit mental construit comme le meilleur exemplaire d'une forme, et un modèle génératif, c'est-à-dire un modèle qui est fondé sur l'idée que l'identité morphologique d'un objet que l'on perçoit et que l'on garde en mémoire se construit à partir de figures hétérogènes qui peuvent se transformer les unes dans les autres au sein d'un groupe. C'est une position, par exemple, qui a été défendue par Cassirer. Ensuite, et surtout, parce que, ainsi qu'on l'a vu, une fois satisfaite l'exigence d'une reconnaissance minimale de l'identité de l'objet dépeint, les choix concernant l'aspect le plus représentatif de la forme de cet objet sont en partie arbitraires. Ainsi en est-il, par exemple, de la figuration des animaux en plan sagittal dédoublé à partir de la tranche de la section, comme c'est le cas dans les images de la côte nord-ouest. Alors, là, on en a un exemple qui est plus facile à identifier que les précédents, puisque ceux que je vous avais montrés auparavant, le dédoublement des points de vue, le dépliement à partir de l'axe central se faisait dans une vue frontale, alors que là, il est découpé à partir du dos, et donc il est déplié à partir, disons, de la colonne vertébrale du canard. Mais ce n'est pas nécessairement la vue sagittale qui paraît la plus immédiatement intuitive. Bref, ou bien on a aussi la combinaison sur laquelle je suis revenu à plusieurs reprises, entre le plan frontal et le plan sagittal, au moyen de laquelle les figures humaines sont représentées dans l'art égyptien par une série de couches, en quelque sorte, successives, frontales, sagittales, etc. Bref, parmi les choix figuratifs à considérer, il y a aussi le fait de donner aux objets dépeints une orientation uniforme dans une même image, ou au contraire de combiner des vues frontales, sagittales ou transversales. Et si l'on prend cet aspect en considération, il en résulte un ensemble de possibilités, il y en a 12, figuratives, qui peut se décomposer dans un tableau dont les variables sont la position et l'orientation des objets dépeints et le type de transformation géométrique au moyen desquels l'image est obtenue. Voilà ce tableau. Il est défini par un nombre arbitraire de 8 objets à dépeindre qui sont soit disposés en rangées. Alors, en fait, ici, ce devrait être beaucoup plus décalé, mais cela dit, je n'ai pas eu le temps de le faire, et avec une orientation uniforme, comme c'est le cas ici, dans ces deux cas, ou pas d'orientation uniforme. Les quatre figures de la rangée supérieure définissent les transformations géométriques dans lesquelles les lignes de projection sont parallèles, les lignes de projection de l'objet sur le plan de l'image sont parallèles, c'est-à-dire ce sont des transformations métriques et des transformations affines, tandis que dans les quatre figures de la ligne du bas, les lignes de projection sont convergentes. Ce sont donc des transformations par similitude et des transformations projectives. Et on peut voir que les options de la première rangée, c'est-à-dire les options 1, 2, 3, 4, 9 et 10, impliquent un point de vue situé à l'infini optique, tandis que les options de la deuxième rangée, 5, 6, 7, 8, 11 et 12, impliquent un point de vue proche ou situé à une distance moyenne. Quant aux options 2, 4, 6 et 8, elles correspondent à des... donc, les options, hein, c'est les petits chiffres qui sont là, hein, 2, 4, 6 et 8, elles correspondent à des situations où l'on figure des angles obliques variables entre le plan original et le plan de l'image, c'est-à-dire le degré d'inclinaison des divers objets à dépeindre n'est pas le même. Tandis que les options 9, 10, 11 et 12 correspondent à des situations où les angles obliques ont tous la même valeur, c'est-à-dire que l'inclinaison de chaque objet est identique. Alors, ça a l'air très abstrait comme ça, mais on peut très aisément faire correspondre des traditions iconographiques à ces options représentationnelles. On va revenir au style figuratif qu'on a précédemment examiné en reprenant le contraste que j'avais fait entre arrangement bidimensionnel des images et restitution des volumes en trois dimensions, en commençant par la première formule, c'est-à-dire les styles bidimensionnels. Égypte ancienne, ce n'est pas un problème. Ça correspond absolument typiquement à l'option numéro 1, c'est-à-dire que la géométrie est métrique, les points de vue sont multiples, l'espace est stratifié, l'orientation des figures par rapport au plan de l'image est uniforme. Pour la côte nord-ouest et pour le cubisme, on a une option de type 4, c'est-à-dire que la transformation géométrique est affine, les points de vue sont également multiples, il n'y a pas d'orientation uniforme des surfaces au plan de l'image. Et ça permet de mettre en évidence des affinités entre des traditions, disons, imagières ou imageantes, donc on ne penserait pas immédiatement à mettre ensemble. Encore que l'intérêt de gens comme Lévi-Strauss pour l'art de la côte nord-ouest et son intérêt simultané pour le cubisme a peut-être quelque chose à voir intuitivement dans cette affinité empirique, disons. Les enluminures médiévales sont typiques de l'option 2. Leur géométrie est également affine, comme dans les images de la côte nord-ouest, avec des points de vue multiples et sans orientation uniforme des surfaces au plan de l'image. En revanche, les plans sont très stratifiés, notamment, comme on l'a vu, par l'usage de bordures et de bandeaux qui ont une fonction d'alignement des motifs. Alors, on peut étendre les exemples à des traditions iconographiques que je n'ai pas considérées jusqu'à présent. Par exemple, un bas-relief assyrien. C'est un bas-relief donc, du 1er millénaire avant Jésus-Christ qui correspond à l'option 1, tout comme l'art égyptien. La projection est métrique. La stylisation et la forme donnent une présence massive à ce génie ailé qui paraît comme découpé au pochoir, si vous voulez. Un peu comme on découpe des gâteaux hein, avec des moules. Autre image, c'est Bonhomme Pâques. Alors pour les s'il y a des spécialistes des Mayas, il faudrait me pardonner, j'ai inversé l'image, mais c'est une erreur de manipulation. C'est une fresque à Bonhomme Pâques où, par contraste avec les cas précédents, il semble bien que l'on ait un point de vue unique, mais c'est le même principe. Autre image, ça c'est un évangéliaire très précoce, hein, du 7e siècle, et il est typique de l'option 9, c'est-à-dire c'est une projection affine à point de vue multiple. Les figures sont rangées en plans successifs et la transformation est affine, c'est-à-dire que les angles sont obliques par rapport au plan de l'image. Ça se voit ici. Et cette transformation affine, en fait, elle concerne à peu près exclusivement les meubles, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, mais aussi les édifices quand on en a, tandis que les figures humaines sont massivement frontales, donc très proches d'une transformation métrique. On a quasiment ici une combinaison entre une transformation métrique pour les figures humaines et une transformation affine pour les artefacts. Un autre style monastique du Moyen-Âge, qui est tout à fait caractéristique de l'Irlande, illustre en revanche l'option 1. Donc ce Saint-Mars, c'est un style qui est très rigidement métrique et d'un si grand formalisme qu'il est à la limite de l'image figurative. Ces enluminures avaient au fond une fonction beaucoup plus décorative que représentationnelle et elles se rapprochent d'une certaine façon de l'art aniconique ornemental qui est caractéristique, comme vous le savez, de la tradition celtique, notamment les entrelacs celtiques et tout le travail du métal, etc. Enfin, un autre style bidimensionnel à point de vue unique, qui est lui aussi hautement décoratif, mais qui est fondé, comme dans les enluminures, au Moyen Âge sur une construction affine, c'est l'iconographie des miniatures persanes. J'en ai pris une qui est tout à fait caractéristique, c'est une de Bizade. C'est une scène de Hammam. Alors, quels sont les points communs de ces huit modes de figuration de nature bidimensionnelle? C'est-à-dire, je le rappelle, de ces modes de figuration qui mettent l'accent sur la disposition des motifs les uns par rapport aux autres selon une économie interne, plutôt que sur la restitution réaliste des volumes dans une scène vraisemblable. D'abord, ils sont tous fondés sur des transformations métriques ou des transformations affines, c'est-à-dire des transformations dans lesquelles les lignes de projection de l'objet sur le plan de l'image sont parallèles. Ensuite, la grande majorité d'entre eux utilisent des plans uniformes et très stratifiés et tendent à présenter les objets avec une orientation identique par rapport au plan de l'image. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas le cas ici, par exemple. Il y a des légères variations. Le résultat, c'est que les images de ce type, au fond, n'ont pas grand-chose à voir avec le monde tel qu'il est, mais qu'elles figurent plutôt des éléments singularisés du monde tel qu'il devrait être ou tel que l'on devrait appréhender ces éléments. Ce sont en somme des gabarits des choses qu'ils représentent plutôt que des copies. Et paradoxalement, ils ont ces modes figuratifs, du fait de leur géométrie et du fait du caractère sériel et uniforme des plans, une présence, une autonomie et une densité qui est beaucoup plus massive que la plupart des images qui cherchent à émuler la tridimensionnalité. C'est ce qu'on va examiner à présent. Je vois que le temps file, donc je vais essayer de ne pas m'attarder trop. C'est ce qu'on va examiner à présent, revenant précisément à ces images à intention tridimensionnelle, disons. On a vu que l'art européen, depuis la Renaissance, jusqu'au début du XXe siècle, est caractéristique de l'option 8, c'est-à-dire que c'est un art qui est caractérisé par une géométrie projective et par un point de vue unique, ce qu'il range dans la même catégorie que les images des grottes ornées du Paléolithique et Paléolithique supérieur, et aussi, incidemment, que les peintures rupestres des Bushmen d'Afrique méridionale, dont certaines n'ont probablement guère plus d'un siècle. La différence éventuelle, c'est que les deux types d'images rupestres ne paraissent pas construites à partir d'un point de vue unique, mais c'est peut-être un effet tout à fait accidentel ou conjoncturel, puisque les images ont pu être superposées au fil du temps et au gré des circonstances et n'ont pas de propos délibérés de façon à apporter différents points de vue. Donc là, il y a un point intéressant que, au fond, dans cette très très longue intervalle de temps qui sépare la grotte Chauvet, moins 30 000 ans, et la peinture à partir de la Renaissance, on a des points, des règles de construction géométrique qui se retrouvent. Donc il n'y a pas nécessairement un progrès géométrique, en tout cas, dans la figuration. Examinons à présent d'autres styles tridimensionnels, à commencer par ce qui semble se rapprocher le plus de la peinture occidentale moderne, à savoir les rouleaux chinois qui dépeignent des paysages. En effet, ces peintures sont aussi construites selon les principes de la géométrie projective et à partir d'un point de vue unique. Donc elles sont équivalentes aux peintures à partir de la Renaissance, mais elles correspondent à l'option 6 plutôt qu'à l'option 8, car elles sont très stratifiées en plans successifs réguliers. Donc la différence majeure avec les paysages naturalistes, et j'ai déjà eu l'occasion de le souligner ici à plusieurs reprises, c'est que chaque plan est le plus souvent séparé des autres par de grandes étendues de vide, c'est-à-dire de surfaces non peintes, qui joue le rôle d'un milieu interstitiel parcouru par les souffles qui relient le monde visible au monde invisible, le macrocosme au microcosme. Et malgré les apparences, parce qu'on y trouve des petites maisons, des arbres, quelquefois des champs, des rivières, des lacs, etc., des pêcheurs, des paysans, malgré les apparences, le monde dévoilé par ces paysages n'est pas celui du quotidien, c'est celui de la contemplation accessible aux sages. Et ces images ne visent pas à dépeindre de façon réaliste des lieux et des activités, comme dans les paysages naturalistes de l'école hollandaise, par exemple, mais visent à susciter dans celui qui contemple le rouleau un sentiment d'intimité comme de profonde connivence avec l'univers. Et cette différence entre les deux types de paysages est marquée non par une différence dans les procédés de construction, puisqu'ils sont presque identiques dans les deux cas, mais par une différence dans le contenu de l'image, ce qui, soit dit en passant, met en évidence les limites d'une approche purement géométrique des contrastes entre les modes de figuration. Il faut combiner les deux approches, à la fois les approches formelles, c'est-à-dire les principes de construction, et les approches en termes de contenu. Dernier exemple d'un style visant à émuler la tridimensionnalité en peinture, c'est celui des primitifs italiens. J'ai pris un exemple classique, un Giotto. Comme le montre donc cette peinture, on a ici une construction affine, c'est-à-dire avec des lignes de projection parallèles et non convergentes. Ça se voit dans la construction de l'édifice et dans la construction, encore qu'on n'a pas le bord ici, mais la construction de l'édifice ne laisse pas planer de doute à ce propos. Composé à partir d'un point de vue unique, avec des objets disposés en plans successifs réguliers, mais dont l'orientation n'est pas uniforme par rapport au plan d'image. Donc on a un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan et un quatrième plan avec les anges derrière. C'est donc l'option 2. Les variations d'orientation des personnages et la succession marquée des plans signalent nettement la transition entre le parallélisme construit à partir de l'infini optique qui caractérise les enluminures que nous avons vues auparavant et la transformation projective à partir d'un point de vue situé à une distance modérée qui sera la marque de la peinture de la Renaissance, justifiant ainsi le terme de pré-Renaissance que les historiens de l'art depuis Burckhardt tendent à employer pour définir cette période. Donc de cette brève excursion dans les styles tridimensionnels, on peut tirer quelques conclusions sur les choix géométriques les plus couramment effectués lorsqu'il s'agit de restituer des volumes sur un plan. D'abord, aucun des modes de figuration considérés n'utilise une géométrie métrique, alors qu'elle était l'option la plus commune dans les styles bidimensionnels. Ils sont fondés soit sur des transformations projectives, et il n'y en avait aucune dans le style bidimensionnel, soit sur des transformations affines. Autrement dit, l'obliquité, soit du point de vue, soit des objets dépeints, paraît être un trait absolument essentiel à l'émulation bidimensionnelle de la tridimensionnalité. Enfin, tous ces styles utilisent des plans stratifiés avec plus ou moins de rigidité, c'est-à-dire en disposant les objets dépeints soit sur des rangées uniformes, comme c'est le cas ici, soit en faisant de chacun de ces objets le point de construction d'un plan autonome, en quelque sorte. On a donc, avec ces règles géométriques, les principes de figuration du monde lorsqu'on souhaite lui donner la variété et la complexité qu'il arbore ordinairement à nos yeux. Reste à voir maintenant comment ces principes s'appliquent aux images produites dans les quatre principaux régimes ontologiques, et ça je le ferai dans la prochaine leçon, parce qu'il est déjà 3h10, et qui n'aura pas lieu d'ailleurs la semaine prochaine, puisqu'il y a les vacances de Pâques qui commencent la semaine prochaine, mais qui aura lieu le 27 avril.